21 mars 1996, cinquième cours de Raveman sur Shir HaShirim chez la famille Lyon.
C'est pas le 6 ? Si vous le dites, ça doit être ça. Ça s'avère un petit peu difficile. Altiruni. Sheani shechachoret. Altiruni, ça vient du mot lirot, voir. Ne me regardez pas. Sheani shechachoret. Motamo. Je suis noir, car je suis noir. Que je suis noir. Shezafatni ashamesh. C'est le soleil qui m'a bronzé. Bené Imi, les fils de ma mère, Nicharoubi, se sont mis contre moi. C'est le même mot, Vecharaapi, la colère qui s'enflamme. Samouni notera et akrami. Motamo, Samouni, ils m'ont placé, ils m'ont mise. Notera, gardienne, et akrami des vignes. Car Micheli, ma vigne à moi, l'onatarti, je ne l'ai pas gardé. On va commencer. Altironi, ne regardez pas, Shani Shechachoret, que je suis noir, chez Afatni Hashamesh, ce n'est que le soleil qui en est le responsable. Beneimi Nicharoubi, les fils de ma mère. On va voir pourquoi la mère et pas le père, ni Kharoubi, se sont mis contre moi. Samouni Notera, ils m'ont placé, Notera, en gardienne, et Akramim, des vignes, sous-entendu de leur vigne à eux. Car Micheli, ma vigne à moi, l'onatardi, je ne l'ai pas gardé. Voilà le texte versé. Si on prend Rashi, qui lui cite le Midrash, il dit Zou Omeret Knesset Israël, c'est le peuple d'Israël qui dit Al Tiruni, Al Tistakloubi le Bisayon, ne me regardez pas comme ça, hein, le Bisayon, en me faisant honte. On dirait ne me regardez pas de travers. Al Tiruni, ne me regardez pas de travers. Sheani Shechachoret, le fait que je sois noir ou sale, ça vient pas de moi. C'est extérieur à moi. Chez Afatni Hashamesh, ça n'est que le produit du soleil. Il suffit que je me mette à l'ombre et ça va passer. Il dit, c'est le peuple d'Israël qui dit, Al Tiruni, ne me regardez pas, Sheani Shechachoret, je suis pas comme je devrais l'être. Chez Afatni Hashamesh, ça n'est que l'extérieur qui a fait de moi ce que je suis. Bene imi ni charoubi. Rashi dit bene imi em bene mitzraim. Ce sont les Égyptiens. Shegadal tibaem, parmi lesquels j'ai grandi. Mi charoubi, ce sont eux qui sont allés à mon encontre. Rachidi, c'est le Erev Rav. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont sortis avec eux, qu'on appelle le Erev Rav, ceux qui se sont agrégés au peuple juif. Samouni notera et akramim. Ils ont fait de moi une idolâtre. Rachid traduit, Kerem, c'est l'héritage. Ils m'ont mis en gardienne de leur héritage. Car Micheli, mais mon héritage, l'onatarti, je ne l'ai pas gardé. Ça, c'est la traduction d'après Rashi. On va répéter en résumant. Al tiruni shani shechachoret. Vous de l'extérieur qui regardez le peuple juif, vous voyez tout ce qui ne va pas. Ne regardez pas ça, parce que c'est zafatni hashemesh, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Bnei Nicharoubi, ce sont les peuples parmi lesquels j'ai grandi et qui se sont agrégés à moi. C'est l'entourage qui m'a rendu tel que je suis. Samouli Notera et Akramim, ils m'ont mis en gardienne de leur héritage, et mon héritage, je ne l'ai pas gardé. C'est une justification du peuple juif. Ah, on va voir quoi à ce qu'on pourrait lui reprocher de ne pas être à la hauteur de ce qu'on lui demande. Et il dit, c'est vrai, mais ça vient de l'extérieur, c'est pas intérieur. Comme il dira, il suffit que je revienne à l'ombre et tout s'arrangera. Pourquoi? Parce que ça vient de l'extérieur aussi. C'est pas intrinsèque au peuple juif. Parce que les peuples parmi lesquels j'ai grandi, c'est eux qui ont fait de moi le gardien de leur héritage à eux. À cause de ça, mon héritage, je ne l'ai pas gardé. Donc maintenant, le verset est déjà un peu plus clair. Ça pose le problème qui est de savoir, c'est facile quand quelque chose ne va pas, tu dis c'est la faute de l'autre, c'est extérieur, il suffit de revenir à l'ombre, ça va s'arranger. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez qu'au moment où Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, à Moïse, de libérer le peuple juif, il lui a répondu, Alléluia avde avodazara, ve alléluia avde avodazara. Tu veux punir les Égyptiens et tu veux sauver les Juifs. Mais les deux sont des idolâtres. Par quel mérite et pourquoi on sauverait les uns plus que les autres? Il est écrit dans le Midrash Rabbah que Dieu lui a dit, il y a trois choses que les enfants d'Israël n'ont pas changées. Et bien qu'ils aient adopté les coutumes idolâtres des Égyptiens, et bien que plus loin dans le Midrash il ait dit qu'il fallait sortir les enfants d'Israël à ce moment-là, parce que si on avait attendu, plus personne n'aurait voulu sortir d'Égypte, puisqu'on sait que les 4/5 du peuple juif, ce qui a marqué Vachamushim, Alou Bnei Israël, les 4/5 sont restés en Égypte, n'ont pas voulu sortir. Si on avait attendu un seul jour de plus, il n'y aurait plus de peuple juif. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Be'etzem Ayomazé, ce jour-là, malgré tout, on va les libérer. Pourquoi? Chez Lo Shinu et Shemam, ils n'ont pas changé leur nom. Lo Shinu et Malbusham, ils n'ont pas changé leurs habits. Lo Shinu et Loshonam, ils n'ont pas changé leur langage.
Pourquoi on s'y croit vraiment dans ça? En fait, il a promis à Ramadi Abbott, et que même d'après le scope de Abbott, normalement, on est sûr d'avoir un héritage et tout, et qu'on travaille exterminé. Pourquoi tu dis trois, qu'on n'a pas changé le nom, etc., alors qu'il y a des raisons bien plus importantes?
D'accord, je vais te répondre tout de suite. On a promis à Abraham, Israël et Yaakov que s'il reste des Juifs, ils viendraient en Israël. Mais on n'a pas promis à Abraham, Israël et Yaakov qu'on va créer des Juifs qui ont envie de venir en Israël. Et puisque 4/5 ne sont pas venus, il y aurait plus 5/5 qui ne sont pas venus. Donc là, il n'y a plus de promesses. C'est ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Il n'a pas promis à Abraham, Israël et Yaakov qu'il y aurait des Juifs. Il a promis à Abraham, Israël et Yaakov que ta descendance, voilà ce que j'en ferai. Et s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Comprenez? Attention, il faut bien savoir qu'est-ce que ça veut dire que la promesse, elle n'engage pas la liberté individuelle de chaque juif. Il n'y aura pas des juifs forcés. On appelle ça en français des millionnaires. Des gens qu'on paye pour être juifs, et c'est avec eux que la promesse va se réaliser. Ça, ça n'ira pas. C'est que tant qu'il y aura des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, alors la promesse est valable. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Non, ce que Dieu a promis, c'est que la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, voilà ce qu'il en fera. Il n'a pas promis qu'il y aurait descendance. Ça, c'est individuel. Bon, on va encore parler de ce problème-là. Donc maintenant, on est devant un problème. Toi, tu viens, tu dis, c'est vrai que je me suis mal conduit, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, mon héritage d'abandonner, mais tout ça c'est extérieur. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur et l'extérieur, comment est-ce qu'on juge ce qui est intérieur et ce qui est extérieur? Il est écrit, il y a un livre de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, lui il prouve de plusieurs gemarotes que lorsqu'un homme se comporte au contraire de sa conscience, au contraire de la grille qui est la sienne de ce qui est bon et mauvais, c'est toujours quelque chose qui est extérieur à lui. Il va plus loin et dit, le rat, ce qui est mauvais dans l'homme, c'est extérieur. L'homme, il est toujours bon, il est toujours tov. Le rat, c'est l'extérieur. En vérité, c'est une gemara dans le traité de Brachot. Yetzerara, le mauvais penchant. Yoshev, le maftechei alev. Il est assis à la porte du cœur. Si on traduit bien ça, ça veut dire que le cœur en lui-même, il n'a rien à voir avec le problème du bon et du mal. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est que la première faute à la Marichon, le premier homme, il a été attiré par la faute. La racine de ce que nous appelons le mal, elle n'était pas dans l'homme lui-même, elle était à l'extérieur. Ça veut dire que, si on le traduit, c'est que l'homme peut être attiré par le mauvais. Il peut exister quelque chose qui s'appelle un mauvais penchant. Il peut pencher vers le mauvais. Mais c'est toujours il qui penche vers. C'est jamais il qui est mauvais. Ça veut dire que la conscience, on va même pas dire l'intellect, fixe les données de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et si je n'arrive pas à obéir à ce que je pense être bon, on va appeler ça un mouvement qui vient de l'extérieur et qui ne vient pas de l'intérieur. On va dire pire que ça, le problème du bien et du mal, il n'est créé que par l'autre. L'autre, on va le mettre entre parenthèses. L'autre, ça veut dire tout ce à quoi l'homme doit se mesurer. Sans autre, il n'y a pas de problème de bien et de mal. Ici, on pourrait dire que Shezafat Niashemesh, c'est le soleil qui marre. On est contraint de faire des choses dont on pense qu'elles ne devraient pas être faites. Mais qui c'est qui peut éviter le soleil? Shezafat Niashemesh. Le problème auquel je suis mesuré, le problème du bien et du mal, c'est je suis mesuré au problème du mal. Ça n'est pas moi le bien et le mal. C'est un problème qui est extérieur à moi, auquel je dois me mesurer. On peut appeler ça une épreuve, on peut appeler ça tout ce qu'on veut. Mais c'est quelque chose qui est toujours extérieur à l'homme. L'homme de lui-même, s'il pouvait produire son propre monde, il aurait été bon. C'est parce qu'il est confronté au problème de l'autre. On voit que l'autre, ça peut être lui-même aussi. C'est pour ça que se crée le problème du bien et du mal. Maintenant, il va falloir qu'on ouvre une parenthèse. C'est facile de dire, j'ai grandi avec les autres. Mais les autres aussi, s'ils sont devenus mauvais, s'ils ont quelque chose de mauvais, ils peuvent aussi dire c'est l'extérieur. Donc le problème n'est pas vraiment de savoir si c'est la faute à lui ou la faute à l'autre. Le problème c'est que on ne peut pas côtoyer le mal sans en attraper quelque chose. À partir du moment où le problème de l'homme, c'est celui de se mesurer au bien et au mal, ce problème en lui-même fait qu'il y a quelque chose qui va rester sur lui. C'est une obligation de se mesurer à ce problème, puisqu'on dit que c'est Dieu lui-même qui crée la possibilité du mal, mais ça reste toujours extérieur. Si ça reste extérieur, donc mon problème c'est de savoir choisir entre les choses, donc c'est toujours je qui est indépendant de ce problème du bien et du mal, qui doit choisir entre deux possibilités ou entre diverses possibilités. Mais le je, il n'est pas mauvais. Il n'est peut-être pas bon en soi non plus, mais on n'a pas besoin de venir et de dire « Moi l'intérieur est bon et l'extérieur est mauvais. » C'est que ce problème du bon et du mauvais, c'est quelque chose qui est extérieur à l'homme. C'est quelque chose à laquelle on doit se mesurer. Mais ce n'est pas nous-mêmes. À partir du moment où on a défini ça, on est obligé de savoir, alors d'où vient le fait que, puisque moi-même je suis averti de ce problème-là, je suis obligé de côtoyer et de frotter, de me frotter à ce problème-là. Vous savez qu'il est écrit à propos du verset « Hayam ra'a vayanos ». Lorsque le peuple juif est arrivé à la mer Rouge, la mer a vu « Vayanos », elle a fui, elle a reculé, elle s'est ouverte devant le peuple juif. La Gemara demande « Ma ra'a hayam vayanos ». Pourquoi est-ce que la mer s'est fendue ?« Hayam ra'a », elle a vu « Vayanos ». Alors on répond « Ra'a arono shel Yosef ». Elle a vu le cercueil de Yosef. Parce que vous savez qu'en sortant d'Égypte, les enfants d'Israël avaient pris le cercueil de Yosef pour l'enterrer en Eretz Israël. Et la Gemara ajoute qu'on voit le même mot Vayanos fuir, Nas se reculer. Nes vient du même mot, c'est lorsque la nature elle recule devant le divin. À propos de la femme de Putiphar, il est écrit « Vayanos achutza ». Il a fui vers l'extérieur. La Gemara bisrar Vayanos, du fait que Yosef avait accompli ce quelque chose d'extraordinaire, Vayanos, il a fui, alors aussi la mère, devant le cercueil de Yosef, elle s'est retirée, elle a fui. Comment est-ce qu'on doit comprendre cette Gemara? On doit pouvoir la comprendre de la façon suivante. Il est écrit un Adam choté et la imken nichnesabo ruach shtut. Un homme ne faute pas, ne se laisse pas aller à ce qu'il n'a pas envie. Que in nichnesabo, s'il est rentré en lui ruach shtut, si on traduit ruach shtut, ça voudrait un vent de folie. Encore une fois, un Adam choté, c'est une loi dans le traité de Sanhedrin. Un Adam choté la imken nichnesabo ruach shtut. On ne commet pas de chet, on ne commet pas d'interdit, on ne transgresse pas d'interdit, si l'onichnasab roarchtout. Il y a eu un vol de folie, tu n'étais pas toi-même. Alors qu'est-ce qu'on me reproche? Parce que je n'étais pas moi-même. Il est évident qu'on me reproche d'avoir laissé ce vent de folie s'emparer de moi. Quelle est la solution? Vayanos, fuir. Yosef, lorsqu'il a été devant le problème de la femme de Putiphar, il ne s'est pas mesuré à ce problème-là. Parce qu'il savait qu'au moment où il allait rester, il allait tomber. Il a fui. Fuir, C'est exactement la même chose que ce qu'on dit lorsqu'on dit que le rat, c'est extérieur à l'homme. Parce que si c'est moi, je ne peux pas fuir. Je peux fuir de ce qui est extérieur à moi. Mais je ne peux pas fuir de moi-même. Si on peut fuir, c'est donc que les choses sont extérieures. Donc lorsque moi je fais quelque chose qui est interdit, je dois me reprocher de n'avoir pas fui. Mais de se mesurer à ça, c'est impossible. On va essayer de voir pourquoi. La même chose, il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Nazir. Vous savez que le Nazir, c'est celui qui a fait un vœu de ne pas boire du vin, de ne pas se rendre impur. Il y a un proverbe dans la Gemara. La Gemara dit « Sror, sror amrinan le nazira »« Va-t'en, va-t'en, pousse-toi » dit-on au nazir. « Le karma lotikrav, ne t'approche pas de la vigne. » Parce que si tu t'approches de la vigne, il est évident que tu vas prendre ce qui t'est interdit. Pourquoi j'ai besoin de lui parler de s'approcher ou de ne pas s'approcher? Si j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là? Allez prendre le vin de la vigne qui t'est interdit. » Non, on va lui dire de cette façon-là « Le karma lotikrav, ne t'approche pas. » Pourquoi? Parce que la seule façon de me mesurer au problème du rat, c'est de mettre une distance entre ce rat et moi, puisqu'en vérité, ça n'est pas moi. La distance que l'homme mettra entre cette dialectique du bien et du mal, c'est ça qu'on appelle le bien. J'ai deux chemins devant moi. La distance que je mets entre moi et ce problème, c'est cela la façon dont je résous ce problème-là. Donc c'est de nouveau dire que c'est extérieur puisque je peux mettre une distance entre moi et le problème. Il y a deux chemins, moi, j'ai essayé qu'il y en ait qu'un. J'ai fui le problème. Mais si j'aborde le problème, j'ai fichu.
Il y a des problèmes où on est obligé d'être total, on ne peut pas les fuir.
Jamais.
Par exemple, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se met en colère avec lui. Je sais qu'il faut éviter, par exemple, de le voir de cette personne.
Ou peut-être il faut éviter de se mettre en colère.
Non, d'accord, mais ça, c'est pas vraiment fuir. Ça,
les deux, c'est fuir. On peut fuir la colère, on peut fuir l'autre.
Par exemple, une personne, c'est un des parents.
Moi, j'ai pas dit de fuir la personne. On peut fuir la colère.
Comment?
Ah, vous voulez un truc pour fuir la colère?
Ouais, c'est pas bon.
Celui qui vous met en colère... celui qui vous met en colère... vous lui offrez quelque chose. Chaque fois que vous le voyez, vous lui offrez quelque chose. Après, vous aurez tellement investi qu'il ne vous mettra plus en colère.
Il lui offre, il met en colère.
Ah bon? Ça, c'est un spécial. Ça, c'est un spécial. Qu'on a décidé de ne pas se mettre en colère, on ne se met pas. Qu'on a décidé de ne pas écouter ou de relativiser, il n'y a rien qui peut percer l'homme qui n'a pas envie d'avoir un rapport avec l'extérieur. Ça, il faut le savoir. Mais celui qui entretient le rapport avec l'extérieur, malgré lui, il a intégré des notions. Donc encore une fois, ce problème auquel je suis mesuré, tu as deux voies, laquelle tu prends? Si je rentre dans cette dialectique-là et je me dis, c'est vrai, il y a deux voies, je suis fichu. Ça s'appelle de laisser rentrer le rouage tout. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Nazir au commencement. Kola roe sota bekilkula yazir atzmo minayayim. Tout celui qui voit sota bekilkula, motamo c'est une femme infidèle dans son infidélité, yazir atzmo minayayim, il doit devenir nazir. Il doit faire le vœu de devenir nazir avec tout la paracha de nazir qui est écrit dans la Torah, de s'interdire des choses permises. Pourquoi? En quoi ça me regarde ce que l'autre fait? Il faut savoir que tout ce qu'on voit, on va même dire tout ce qu'on perçoit, parce que ce n'est pas à la vue, ça peut être à l'ouïe, ça peut être au toucher, je ne suis pas maître de mes perceptions. Et entre mes perceptions et moi, de savoir déterminer ce qui est extérieur, ce qui est intérieur, c'est impossible. Je vais vous donner un exemple. Un jour, un couple est venu me voir. Il me dit, nous, on ne s'entend pas. Mais les enfants ne savent rien, ne comprennent rien de ça. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les enfants. Après 3 minutes, la petite fille, elle dit, nous et mon frère, on n'est pas comme mes parents, nous on s'aime. Bon. Je dis, mais c'est bizarre. On n'a pas besoin de langage pour percevoir les choses. On perçoit beaucoup plus les choses par le comportement que par le langage. On pourra dire à ses enfants, fais ceci, fais cela. Si on ne le fait pas soi-même, ça n'aura aucune incidence. Et si on le fait soi-même, on n'a jamais besoin de dire, fais ceci, fais cela. Il en est de même pour tout ce que je perçois. Il faut savoir que la façon dont nous voyons les choses, nous intégrons malgré nous des données qui sont énormes. Chaque jour, à chaque instant. Sans le remarquer. On intègre. Au moment où on réfléchit, au moment où on se comporte selon ce qu'on est, selon ce qu'on a intégré. Et ce n'est pas toujours, et évidemment, ce qu'on a voulu intégrer. C'est pour ça que je disais que l'homme, en vérité, est neutre. Et neutre, ça veut dire, on peut dire ça bien. C'est-à-dire que l'homme en lui-même n'a pas de problème. C'est toujours l'autre qui pose problème. L'autre n'étant pas obligatoirement l'humain, c'est tout ce qui est la vie, et ça, c'est extérieur à lui. Ça pose problème. La façon dont il perçoit l'extérieur, elle tient compte de données desquelles il n'est pas maître. Haro et Sota Bekulkula, tu as vu quelque chose. Tu dis, ça ne me concerne pas. Ça te concerne puisque tu l'as vu, tu l'as intégré. Maintenant, dans ton jugement et dans ton comportement, tu as intégré cette possibilité. Avant, tu ne l'intégrais pas. Ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas le refaire. Ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'on n'a pas perçu, on ne peut pas l'inventer. Ça veut dire que l'extérieur et l'intérieur se confondent sans qu'on puisse maîtriser ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Personne ne pourra dire ça c'est mauvais, sans que le fait de dire cela, ça veut dire le fait de l'avoir perçu, de le fait de raisonner, n'intègre pas que ce mauvais-là c'est une possibilité puisque tu en parles, puisque tu y penses, puisque tu y réfléchis. Ça fait donc partie de ton monde. La seule possibilité, c'est de fuir. Fuir pas dans le sens d'éviter, mais dans le sens de se considérer des catégories. Comment est-ce que Yosef a fait pour ne pas tomber dans le problème de cette histoire de la femme de Potiphar? Elle voulait écouter, elle voulait quitter son mari, sa maison pour Yosef. Lui, il a eu une seule réponse. Il lui a pas dit c'est interdit, c'est pas joli, c'est pas moral, ça va faire du mal. Parce que lorsqu'on commence ces raisonnements-là, on a déjà intégré. Ça va faire du mal. Peut-être qu'après, ça va faire du bien. C'est pas moral. Peut-être c'est ton mari qui est pas moral. On va déjà trouver, à partir du moment où on intègre, ça fait déjà partie du problème. Comment faire pour que ça ne fasse pas partie du problème? Il lui a dit, voilà. Il lui a dit, on a une famille. On vient de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit, je ne suis pas venu sur le monde. Et dans notre famille, il est arrivé que Dieu demande à Abraham d'amener son fils Yitzhak en sacrifice. Imagine-toi qui me demande un jour à moi de faire le sacrifice de ma vie. Pour cet instant-là, il faut que je reste propre. Voilà. Ça s'appelle fuir. Tu dis, mais où tu as vu la fuite? C'est que je n'ai pas rentré un problème dans mes catégories à moi. Ça ne rentre pas dans mes catégories. Je n'ai pas besoin de juger, moral, pas moral, ça va faire du mal, oui. Je J'ai pas besoin de me donner toutes les raisons du monde. Lorsqu'on se donne des raisons, c'est qu'on a intégré. Je n'ai pas besoin de me donner des raisons pour ne pas ou faire. Ça ne fait pas partie de mes catégories. C'est ce qu'on appelle fuir. Le Ruach Shtut n'a rien à voir avec moi parce que j'ai mes propres catégories. À partir du moment où je vis, ce que Rachid dit, le peuple juif s'est formé en Égypte. Tu veux qu'il ne ressemble pas aux Égyptiens ? Tu veux qu'il n'ait pas intégré les catégories des Égyptiens ? C'est impossible. C'est obligatoire que ce soit comme ça. Seulement, à partir du moment où on se reforme des catégories, ça passe. C'est le soleil et c'est l'ombre. On ne peut pas éviter le soleil, mais on peut se mettre à l'ombre. C'est-à-dire qu'on peut corriger, on peut, en se construisant des catégories qui sont les siennes propres, on peut vivre dans son monde à soi, avec une perception qui est personnelle de ce qui est extérieur. À ce moment-là, le rapport avec l'extérieur, ça n'est plus un rapport obligatoire, mais c'est un rapport voulu. Et le rapport voulu, je le dose comme je veux. Parce que n'importe quelle perception, même si c'est quelque chose que j'ai perçu malgré moi, ça va se heurter à mes catégories. Et à ce moment-là, je suis à même de juger. Je ne sais même pas comment je l'ai perçu. C'est un problème qui vient. Est-ce que je fais comme ça ou comme ça? Mais pourquoi tu as pensé à ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé. Parce que j'ai perçu ça. Mais le fait que ça pose problème et que j'arrive à le juger, c'est parce que ça s'est heurté à des catégories, à un système qui est tellement bien élaboré que tout le reste, c'est l'extérieur.
Et du coup, ces catégories-là, elles ne sont pas investies de l'intérieur. Je veux dire, intellectuellement, elles se posent elles s'imposent, quoi. Ça veut dire on n'est pas constamment en train de comprendre pourquoi on doit se bâtir un système, mais finalement, il prend souvent toute sa force, la reposition, autre chose. On a du mal à croire quand même que ce système...
Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas dire que c'est plus par opposition ou que c'est plus... Tout dépend d'éducation, tout dépend des valeurs, tout dépend. Mais moi, ce que je veux dire en gros, c'est une seule chose. Pourquoi est-ce qu'on dit que le rat, c'est extérieur? Parce que comme tu as une forme de protection qui est ta propre catégorie, tout problème est obligatoirement extérieur. Celui qui n'arrive pas à ce que le problème soit extérieur, c'est qu'il n'a pas construit les catégories. De là l'importance de l'éducation. On ne peut protéger personne. Tout le monde un jour est devant le problème du bien et du mal. L'éducation, ça fait qu'on a ses propres catégories et que donc on est maître de la situation. Sans éducation, on est toujours obligé de tomber et après de se forger grâce à ça des catégories. C'est ça l'obligation de l'éducation. Ça ne veut pas dire que lorsque je vais bien et que mon enfant il est à l'abri des problèmes de la vie, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a une façon de les maîtriser. Sinon, il est obligé lui de prendre des coups et de se forger sa propre façon de maîtriser les choses. Je lui fais prendre un départ qui, au lieu de commencer à 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il commence à 25 ans. C'est en cela qu'on peut comprendre que deux voies, le choix, tu fais ça ou tu fais pas ça, c'est quelque chose qui est extérieur. Là. Donc maintenant, on pourrait comprendre le sens du verset. Al tiruni shani shechachoret. C'est vrai que en Égypte, on a ramassé la poussière. Seulement, bene imini charubi. Il dit, c'est venu de l'extérieur. C'est le Erevra. Vous savez que la Torah rend coupable ce Erevra de la faute du Vaudan. C'est eux qui ont commencé à vouloir créer un système à la place de Moshe Rabbeinu, parce qu'ils pensaient que Moshe Rabbeinu était mort et qu'il ne descendrait plus du Mont Sinaï. Toujours ça va dans le sens de cet extérieur-là. Samouni notera et akrami. Maintenant, on va aller plus loin. Ils m'ont mis à garder leurs valeurs. Vous savez qu'on est toujours orgueilleux de savoir et de voir qu'ils ont réussi dans tous les domaines. Chaque fois qu'un juif voit la liste des prix Nobel, il compte combien de juifs. La plupart des juifs, ils vont vous dire, le 20e siècle, c'est le siècle de Karl Marx, de Freud, Einstein. On est tellement fiers de ça qu'on essaie de trouver des raisons pourquoi c'est comme ça. Ici il y a marqué Samuni notera et akranim. À partir du moment où je me mélange à l'autre, il y a une dynamique dans le peuple juif qui fait qu'on va devenir le gardien de la valeur de l'autre. C'est moi qui vais développer ses propres valeurs à lui. C'est moi qui vais lui conserver son héritage. Au lieu de conserver mon héritage, je vais lui conserver son héritage. Parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on veut conserver quelque chose. Ça, on pourrait appeler ça le danger du savoir et le danger de l'éducation. Plus quelqu'un est éduqué à avoir une action sur les choses et à maîtriser les choses et à se travailler et à être au-dessus des choses de la vie, plus ce quelqu'un, quoi qu'il adopte, que ce soit son héritage ou l'héritage de l'autre, il va essayer de le développer, il va essayer d'en faire quelque chose. Le peuple juif, c'est un peuple éduqué. C'est un peuple qui a besoin de grandir. Parce qu'on lui a donné cette ambition. On l'a mesuré à ça. Alors quand c'est pas son héritage, c'est l'héritage de l'autre. En vérité, ça prouve qu'on est capable d'intégrer les valeurs des autres au point qu'on va les développer. Parce que nous, on a l'habitude de développer, nous on veut développer, nous on veut travailler, nous on veut faire. On a une ambition. On ne veut pas que la fin de la vie ressemble au début de la vie. Ça fait qu'on sera toujours gardien de quelque chose. Un juif, vous le verrez dans n'importe quelle idéologie, il sera toujours activiste. Il y en a qui traduisent ça par le problème de la galoute. Pourquoi ? Comme tu n'es pas bien chez toi, alors tu essayes d'être le mieux chez les autres. Mais c'est pas vrai, parce que ça ne date pas de la galoute. Ça a toujours été comme ça. C'est qu'on ne peut pas développer chez quelqu'un le besoin de transcender les choses sans que, de n'importe quelle façon, il les transcende. Donc, comme ça, on peut arriver à comprendre le verset. Mais ça, c'est le haut du panier. En vérité, il y a beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Vous savez que Rashi parle de l'Égypte, Samouni Lotera est accramé, l'idolâtrie, c'est une idée qui avait cours en Égypte. Le mot Mitzraïm en hébreu veut dire Metzarim. Metzarim, on le dit dans la Halel, Mina Metzar Karati, Metzar, c'est l'enfermement. Tsar. C'est les limites. La raison pour laquelle le peuple juif a dû passer en Égypte. Il est écrit dans la Gemara, dans le Darim, que c'est parce que Abraham Avinu a demandé à Dieu, lorsqu'il lui a promis, Ki guerrier Zaracha Be'eretz Lo'lahem, ta descendance elle sera, et ensuite je la délivrerai. Il a posé une question. Comment pourrait-elle savoir que ça va se réaliser? Parce qu'elle avait très bien compris Abraham Avinu que ça dépendait juste, ça dépend pas seulement du bon Dieu. Dieu lui a promis. Il a dit, Bamé Eda Akirachela. Donne-moi une garantie que ça va se passer. La même chose, on voit Yaakov Avinu. Yaakov, lorsqu'il est sorti de la maison de son père, Dieu lui a promis qu'il reviendra à Beshalom, il aura une descendance. Et pourtant, dès qu'il a eu affaire avec Esav, il a eu peur. Pourquoi? Parce que dans toute promesse, il y a toujours une condition. C'est que celui à qui on a promis est là. Mais celui à qui on a promis n'est pas là. La promesse, elle est caduque. Yaakov Avin, lorsqu'il est revenu et qu'il a rencontré Esav, il a dit, Shema Igrom Achet, peut-être je ne me suis pas conduit comme il fallait. Donc la promesse, elle n'existe plus parce qu'elle a été promise à quelqu'un qui n'est plus le même. Il en est de même pour le peuple juif. Tu promets, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour recevoir la promesse. Le bon Dieu peut très bien dire, ben je vous donne, il n'y a plus personne. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Avraham Avin m'a demandé, bah mais, comment puis-je savoir, Eda, comment je saurais, Kirachena, que cette terre d'Israël, on va la recevoir. Effectivement, pas, je te promets que s'ils veulent, je leur donnerai. Comment ça pourra se passer, effectivement? Comme ça, il a demandé à Dieu. La Gemara dit, la continuation de la paracha de la Torah le prouve, que c'est ça qui a amené les enfants d'Israël en Égypte. Dieu lui a répondu, Yado Ateda Kiger Yezaracha Beret Solaim Vavadum Vinimotam. Sache, Yado Ateda, tu veux savoir? Maintenant tu vas savoir, Yado Ateda, le même mot. Kiger Yezaracha, ta descendance, elle sera étrangère. Beret Solaim, dans un pays qui n'est pas le sien. Vavadum, ils les asserviront. Ve Inum, ils les traiteront mal. Ils les tortureront. Et après, récemment, je les sortirai. C'est incompréhensible. Quelqu'un demande, il dit, voilà, tu me fais une promesse. Mais dans la réalité, je ne sais pas si elle va pouvoir se réaliser. Parce que peut-être, il n'y aura plus personne pour être là, au moment de la promesse. Il lui dit, ta descendance, elle va passer en Égypte. Donc en plus, on va les asservir, on va les frapper. Normalement, c'est le contraire. Ils vont être en train de donner des idées à Avraham Avinu que ça ne se passera jamais. S'il leur disait, mais t'en fais pas, moi, je vais les amener en Israël. Non, pas du tout. On va les amener en Égypte, on va être frappé, on va être ceci, on va être cela. Et après, ça va se passer. Où est la garantie? Yado Ateda. Sache que tu as demandé Bameda, comment je saurais? Tu dis Yado Ateda, tu vas savoir. Comment tu as fait? Ça, c'est tout le problème de la rentrée et de la sortie d'Égypte. Ah, il faut savoir une chose. La seule garantie pour un homme de pouvoir s'en sortir. Et la seule garantie que Dieu a pu donner à Abraham qu'un jour il y aurait encore des enfants d'Israël, c'est de les mettre à l'épreuve tout le temps. C'est grand substance, il aurait dit à Abraham a vu nous comme ça. Tu sais, si la vie n'était pas faite d'épreuves, tu aurais raison de poser cette question. Mais comme dans la vie il y a des épreuves, je te garantis qu'il y aura toujours des juifs. Voilà. Sans épreuve, il n'y a plus de juifs. Avec épreuve, il y a des juifs. On va les emmener en Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire Metzarim. On va les mettre à l'intérieur. Et tu vas voir, ça c'est comme ça que ça concerne le peuple juif. On a gagné maintenant le problème de quoi? Et de la liberté individuelle et de la promesse. La liberté individuelle, elle est sauvegardée. Parce que ça dépendra toujours s'il y a des juifs. Mais Dieu lui a dit, t'en fais pas, je te garantis qu'il y aura des juifs. Parce que je sais comment faire moi pour qu'il y ait des juifs. On va les enfermer. Mitzrayim. Et on va les sortir de Mitzrayim. Et là, ils auront compris quelque chose. Maintenant, il faut ouvrir une parenthèse. Il est écrit dans la Gemara deux choses différentes. Une fois, il est écrit, en vérité, c'est un verset de la Torah, mais pas besoin de le dire, qu'il y a deux mitzvot spéciales de Ahava, d'amour de l'homme envers son prochain. Ve'avta le reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais une autre mitzvah, ve'avtem et ta guerre qui guérit me'item et la tinsraïm. Tu dois aimer le guerre, l'étranger, celui qui est venu de lui-même dans le peuple juif, car vous aussi vous étiez étranger en Égypte. D'accord. Si j'ouvre le Rambam Maïmonide, je vais voir, c'est dans l'Ilchot Deot, au 6e Pérek, le Rambam me dit ceci. Il y a deux mitzvot de Ahava le Reacha. Il y a l'autre juif, Reacha, c'est une partie du peuple juif. Et il y a le guerre. Mais il ajoute que le guerre, la raison pour laquelle je dois aimer l'étranger, c'est parce que il a fait un effort de rentrer de lui-même dans le peuple juif. Qu'est-ce que le Rambam veut dire ici? Il veut dire que la raison pour laquelle l'étranger a une valeur, c'est pas parce que c'est un misken. Il y a d'autres miskenim dans la vie. Chacun, il a des problèmes. Lui, le guerre a des problèmes, qui est étranger. Moi, j'ai des problèmes financiers. L'autre a des problèmes avec son physique. Le troisième a des problèmes relationnels. Le quatrième a des problèmes familiaux. C'est pas du tout à cause de ça. C'est parce que dans la Torah, il y a marqué que Dieu ohev guerre. Parce qu'il a fait l'effort de rentrer dans le peuple. Alors, si c'est comme ça, on va poser une question. Venez, on va reprendre le verset. Vav, t'aimes ta guerre, tu vas aimer l'étranger, qui guérit maïtem, parce que vous êtes étranger en Égypte. On comprend plus. Normalement, on comprend le verset. Toi aussi, tu sais ce que c'est d'être étranger. Toi aussi, tu sais ce que c'est de supporter. Toi aussi, tu sais ce que c'est que de ne pas avoir un pays, puisque tu es étranger. Alors, aime l'étranger. Donc, ça veut dire que l'étranger, c'est un misken. C'est quelqu'un hein, qui a des problèmes. Viens, le rabbin me dit non, 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 c'est pas à cause de ça. Parce que marqué veut Oev guerre. Dieu il aime l'étranger. Il a raison le Rambam. Parce que dans ce verset il est marqué Oev guerre yatom valmana. Et après nous avons marqué veut Oev guerre la tête l'olechem simla. Le guerre, c'est pas comme le yatom valmana. C'est pas que Dieu protège la veuve et l'orphelinat. Alors le guerre aussi. Il est marqué veut Oev guerre. Le guerre est tout seul. Il a quelque chose de bizarre par rapport aux deux autres catégories. C'est quoi ce qu'il est guerre? Il a fait l'effort. Moi, je suis né juif, je n'ai pas fait l'effort. Lui, il a fait un effort. Akadosh Baruch Hu, il aime spécialement. L'épreuve fait qu'on choisit toujours. Lorsqu'on choisit, on a un petit peu du guerre. Vous comprenez? J'ai deux chemins. J'aurai perpétuellement deux chemins. À partir du moment où je suis éternellement confronté à ces deux chemins, c'est que c'est moi qui choisis toujours. Alors moi aussi j'ai quelque chose un peu du guerre. Où est-ce qu'on a appris ça? En Mitzrayim. C'est là où il fallait choisir. Ki guerre aïta beret Mitzrayim. Dieu t'a proposé de sortir, il y en a 4/5 qui sont restés, il y a un cinquième qui est parti. Voilà, très bien. L'Égypte, c'est l'épreuve, être à l'intérieur. Comment les Égyptiens réagissent à l'épreuve? Prenez le mot pharo en hébreu. Pharo, ça veut dire le mot paroua. Paroua, c'est quoi? Éclaté. L'Égyptien, devant les limites que chaque homme a dans sa vie, il éclate. Aujourd'hui, il s'éclate. Avant, on pensait qu'on éclatait, maintenant on sait qu'on s'éclate. Mais attention, les limites, elles ne sont pas toujours imposées par les autres. Elles sont aussi imposées par moi. Nous, on a dit avant, il y a un problème de l'autre. Vous savez que l'autre, ce n'est pas toujours l'autre personne. L'autre, ça peut être moi aussi. Un homme a des limites qui sont ses besoins, ses désirs, et qu'il doit dépasser. On peut faire éclater ces choses-là, ou on peut en tenir compte et les dépasser. La liberté d'Égypte, la goula, la délivrance, c'est d'être délivré de ses propres besoins. On va essayer de dire ça autrement. Sur qui puis-je compter dans la vie? Sur l'autre, sûrement pas. Sur moi, c'est pas certain. Parce que si j'obéis à tout ce que j'ai envie de faire, il ne va rien en sortir de bon. L'autre me limite. Moi-même, je me limite. Quel est le seul qui ne me limite pas? Lorsque Pharaon a demandé, pourquoi est-ce que vous voulez sortir d'Égypte ? On lui a répondu un mot. Le man tavdu neta elokim ala arazé, avoda. Il y a un service. On est au service, on fait partie du projet, on fait partie de quelque chose qui est divin. Le bon Dieu, c'est le seul dont je suis sûr que le rapport avec lui, ça n'est ni un rapport extérieur, ni un rapport qui veut me tsarim, qui veut m'enfermer. Parce que la création elle-même de l'homme, c'est le contraire de l'enfermement. L'autre, il m'enfermera toujours dans quelque chose. Dans une structure qui est la sienne. Dans une volonté qui est la sienne. Dans un rapport qui est le sien. Moi-même, je m'enferme toujours. Le seul qui ne m'enferme pas, c'est le bon Dieu. Il n'existe pas de Geoula, il ne peut pas exister de délivrance, si ça n'est de savoir qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi. Parce que lui, je suis sûr qu'il ne m'a pas créé pour m'enfermer. Il m'a créé, au contraire, pour me libérer. Pharaon, c'est celui qui se permet tout ce qu'il veut. Il n'a plus de limites, il a fait éclater toutes les limites. Paro, il est paroua. Il a tout cassé. On a demandé au peuple juif d'apprendre une autre leçon en Égypte. Qu'on peut être en guerre. On peut venir, on peut te demander, tu veux sortir ? Tu veux servir à Kadosh Baruch Hu au Mont Sinaï ? Et tu réponds oui. Pour ça, il a fallu se mesurer à ce problème de Metzarim. On ne sait pas se mesurer à ce problème-là. Le bon Dieu n'est pas garant. Maintenant, on va comprendre. Dans le Télim, il y a marqué « Odou Hashem Kitov Kilolam Chazdo ». Remercie à Kadosh Baruch Hu, parce que l'Olam Chazdo, tout ce qu'il te donne, c'est du Chesed. C'est quelque chose en plus. Il te donne la vie. Tout ce qu'il te donne, il ne te devait rien. Il n'a jamais fait le contrat avec toi. Nous, on s'imagine qu'on a un contrat avec le bon Dieu, puisqu'il m'a mis au monde. Il est obligé de me donner ça, 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 ça et ça. Mais on sait que non. Puisque Dieu a dit à Yov, dans Job, il est marqué qui est-ce qui est premier vis-à-vis de moi qui m'a précédé et je lui paye tout ce qu'il a donné. Ça veut dire, dit le Midrash, tu mets des tzitzit à ton vêtement, c'est moi qui t'ai permis d'avoir un vêtement. Tu ne vas pas mettre les tzitzit. Tu mets une mezouza à ta maison, c'est moi qui t'ai donné la maison. Tu ne vas pas mettre une mezouza. Dis-moi ce que tu fais de toi. Le Midrash il termine en plus en disant, tu pries, c'est moi qui t'a donné l'idée de prier. Qu'est-ce que je te dois? Je te dois rien. Si quelqu'un il dit à Kadosh Baruch Hu, je lui dois quelque chose, parce qu'il m'a prêté quelque chose, il m'a donné quelque chose, je paye tout de suite. Sous-entendu, je ne dois rien à personne. Il n'y a que l'homme qui puisse devoir quelque chose. Comme ça, il a répondu à Yov. Parce que Job se plaignait, il dit que ce n'est pas la qualité de la vie là, ce que je suis en train de vivre. Il lui dit, Migdimani Vachalem, dis-moi ce que tu m'as prêté, dis-moi ce que tu m'as donné, je paye tout de suite. On peut le demander, le problème est-ce qu'on est obligé de le recevoir ? Est-ce qu'on me doit quelque chose ? Mais même la vie, on ne doit pas m'aider. Qui me dit pour combien de temps je vis ? Qu'est-ce que j'ai à demander ? À qui ? Qui me doit quoi ? Alors pour la qualité de la vie, c'est encore pire. On ne me doit rien. En vérité, le Midrash y répond. Il y a quelqu'un à qui le bon Dieu doit. Ravak ou Meshalem Srar Sofrim Vesrar Mishnim. Il y a des gens qui sont célibataires et ils soutiennent les écoles. Dans une ville, on a besoin des écoles. On ne va pas demander seulement à ceux qui ont des enfants de payer. Il y a les célibataires qui payent. Mik Dimani Vashalem. Amar Akadosh Baruch Hu Mishé Magdimoti. Il dit Akadosh Baruch Hu a répondu celui, c'est vrai, il a raison, celui-là. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de besoin. Chayechem she'ani noten lo isha ubanim. Si il paye pour les écoles, il aura une femme et des enfants. Moi, je suis garant. Parce qu'on a trouvé Igdimani, l'homme a d'abord donné, va Shalem, Dieu va lui payer. En vérité, la subtilité du Midrash, elle est que la réponse n'est en qu'une mot, une réponse, ça n'est qu'une question. Pourquoi ? Parce que qui t'a donné l'argent pour payer ? On va recommencer. C'est la question est toujours bonne. Il y a des réponses. Les réponses sont bonnes. Mais même la bonne réponse, elle respecte la bonne question. Ça veut dire qu'on ne doit rien. Souvent, c'est le seul qui est capable de me donner quelque chose, bien qu'il ne me doive rien du tout. C'est le col à qui j'ai affaire, hein, et dont je suis sûr que sa propre existence n'est pas une agression pour moi, puisqu'il m'a créé. Moi, je suis une propre agression pour moi-même. L'autre, c'est une agression pour moi-même. À Kadosh Baruch Hu, ça ne peut pas être une agression par définition, c'est impossible. Pour ça, il faut d'abord savoir se mesurer avec le médecin. Il faut d'abord savoir que sans pression, sans épreuve, il n'y a pas de grandeur. Parce qu'il n'y a pas de définition de ses propres possibilités. Ça, quand même, il faut expliquer. Il y a marqué Va'elokim Nissa et Abraham. Dieu a éprouvé Abraham. Pourquoi tu as besoin de l'éprouver? Rachid dit, il pose cette question-là. Tu as besoin d'éprouver Avraham Avinu? C'est la question de la Gemara. La Gemara répond, lorsque celui qui fait des pots en terre a terminé les pots, il frappe un petit peu avec un marteau dessus pour voir si ça tient bien. Mais il frappe seulement les pots dont il est sûr qu'ils peuvent au moins un petit peu tenir le choc. Ceux qui ne sont pas encore secs, ceux qui ne sont pas encore bien formés, il ne va pas leur taper dessus. Donc le peuple juif, il a choisi Avraham pour lui taper dessus. C'est le Gemara, comme ça, elle est incompréhensible. Tu choisis celui dont tu es sûr pour lui taper dessus. Alors, la question, c'était pas est-ce que tu n'es pas sûr d'Abraham? La question, c'était le bon Dieu sait à qui il a affaire. Pourquoi il a besoin d'éprouver? Donc, on a répondu. La réponse, elle est ce que veut dire la Gemara, c'est que la cruche elle-même, elle ne sait pas si elle va tenir. La cruche elle-même, elle ne saura si elle tiendra que lorsqu'on lui aura tapé dessus. Celui qui tape, il est sûr. Mais il va entendre le son de la cruche. Avraham Avinu, lui-même ne savait pas de quoi il était capable avant qu'il passe l'épreuve. Si vous n'êtes jamais entraîné au saut en hauteur, et quelqu'un vous vous demandez, est-ce que vous pouvez sauter au-dessus de la barre des 2 mètres? Si vous n'avez jamais essayé et que vous êtes honnête, vous êtes obligé de répondre non. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas avoir essayé, ça ne vous donne pas la possibilité de dire je suis capable. Donc comme vous pensez que vous n'êtes pas capable, et bien vous n'êtes pas capable. La seule façon de savoir si vous êtes capable ou non, c'est d'essayer. Celui qui n'a pas essayé, il est incapable. Pas du fait qu'au fond il est incapable, parce que comme il n'a jamais essayé, ça ne fait pas partie de ses possibilités, puisqu'il n'a jamais fait. Donc il est incapable. Ce qui a marqué Va'elokim Nissa et Avraham, la meilleure cruche, on l'éprouve. C'est parce que celui qui a l'épreuve, il n'est capable d'être que lorsqu'il a surmonté l'épreuve. Sinon, ça ne fait pas partie de ses catégories mentales de pouvoir sauter 2 mètres. Donc il ne sait pas, donc il ne peut pas les sauter. Je ne me mesure que dans la mesure où je pense être capable de me mesurer. Je ne fais d'effort que dans la mesure où je pense être capable de réussir. Donc si je ne me mets pas à l'épreuve, je ne saurai jamais de quoi je suis capable. Donc je suis effectivement incapable. Vous comprenez? C'est pas que je suis incapable parce que je sais que je ne réussirai pas. Que du fait que je ne sais pas que je vais réussir, ça ne fait plus partie des choses que je fais. Quelqu'un sort du bureau le vendredi, tu dis qu'est-ce que tu vas faire? Il dit je ne sais pas encore, il dit pourquoi tu fais pas du surf? Il dit j'en ai jamais fait. C'est la première réponse. J'en fais pas parce que j'en ai jamais fait. Une fois que j'en ai fait, on peut me demander pourquoi j'en fais pas. Alors je dirais parce que je suis malade, parce que j'ai pas envie d'en faire. Mais la première fois, la seule réponse, c'est parce que j'en ai jamais fait, j'en fais pas. Donc on est obligé de provoquer l'épreuve pour savoir hein, qu'est-ce qui fait partie de ton monde. Sinon tu sais pas où tu en es. Pour ça, c'est simplement ce qu'on enferme. Il faut qu'il se cogne. Alors il y a deux possibilités. Ou il éclate, ou il apprend à choisir. Le guerre, c'est celui qui a été confronté à un problème. Il est dans le métzar. Il ne peut plus vivre comme il a vécu avant. Il est obligé de trouver une nouvelle catégorie. Ça ne marche plus. On l'a mis dans une épreuve. La seule façon pour lui de s'en sortir, c'est de faire un pas. Va'avtem et ta guerre. Il faut savoir estimer celui qui sait faire le pas. Qui guérit Maïtem de Mitzrayim. Vous aussi, vous n'avez été créé qu'en faisant des pas. Vous aussi, vous n'existez que parce qu'on a dit à Avraham Avinu, tu veux que je te prouve qu'il y aura toujours des juifs? Je vais toujours les mettre à l'épreuve. Maintenant, on va comprendre. Odu Lachem Kitov Kilolam Chazdo. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Hafar Libam Lisno et Amo. Dieu a changé le corps des Égyptiens afin qu'ils aient la haine du juif. Dis-moi où c'est Kilolam Chazdo? C'est que si l'Égyptien n'avait pas eu la haine du juif, il ne serait plus jamais resté un seul juif. Ça veut dire que Dieu va garantir à Avraham Avinu l'existence du peuple juif. Comment peux-tu le garantir? Ça dépend du choix. Il n'y a pas de récipiendaire, il n'y a pas de promesse. Mais je vais faire en sorte qu'il y ait toujours un récipiendaire. Je ne vais pas lâcher le peuple juif. Guerre, Yézara, ça va commencer par les Mentsarim, ça va commencer. Sortir de ses propres frontières, sortir des frontières que les autres mettent, on appelle ça la Goula. C'est ça la délivrance de l'homme. C'est ça l'indépendance. Autrement, c'est impossible. On n'a jamais trouvé d'autres catégories. Ça veut dire qu'en vérité, le guerre, il a un double emploi. C'est vrai que la Gemara dit « Kashim gerim le Israël que saparat ». Le guerre, c'est quelque chose de difficile pour le peuple juif, comme une maladie. Pourquoi? Parce que le fait de vivre au milieu des autres et que les autres s'agrègent à nous, ça fait que « Samon inotera et akramim ». Tu as des propositions qui n'étaient pas les tiennes. Tu dois te mesurer à la vie parmi les autres. Mais d'un autre côté, Vavta et Taguer, il t'apprend qu'on peut aussi faire le pas. Tu as les deux. D'un côté, tu dois être content. Pourquoi? Parce que les Égyptiens t'ont appris à vivre. Sans pression, il n'y a pas de possibilité de vivre. D'un autre côté, il faut essuyer la poussière. C'est comme quelqu'un qui, quand il rentre chez vous, il a bossé sur les pieds, il y a toujours un peu de poussière qui rentre. On ne peut pas faire autrement. Mesure-toi ça. De l'autre côté, il t'apprend qu'on peut se mesurer aux choses. La preuve, il est venu de l'extérieur, il n'y a rien qui le forçait. Toi encore, tu peux dire, je suis né juif, je suis ci, je suis ça. Mais on va aller plus loin encore. On a souvent dit que ce qui a marqué dans la Gemara, dans le traité des Vamot, en Korim, le Avot et la Shlosha, on appelle les pères que trois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que c'est trois des références et des lois qui gèrent le peuple juif. Avraham, c'est Trila le Gerim, c'est le premier homme, il est venu de l'extérieur, il est devenu juif. C'est pour ça qu'on appelle Avraham à Ivri, Ever, ça veut dire le monde entier était d'un côté et lui était de l'autre côté. Yitzhak, le deuxième, c'est Kadosh Mirechem. Il est né d'une mère juive, il n'a pas besoin de prouver son judaïsme. Donc j'ai déjà deux catégories chez le juif. Celui qui veut devenir juif peut être juif. Et celui qui est né d'une mère juive, il n'a pas besoin d'adhérer au judaïsme, il est juif. La Gemara dit Kadosh Mirechem. Il a la kedusha du peuple juif de sa naissance. Yaakov, la Gemara dit Mitato Sheleba. Yaakov, des 12 enfants, il n'y en a pas un seul qui est sorti du peuple juif. Avraham, il a eu deux enfants, Ishmaël est sorti. Il ne fait plus partie du peuple juif. Yitzhak, deux enfants, Esav est sorti du peuple juif. Yaakov, 12 enfants, personne n'est sorti du peuple juif. La Gemara dit Mitato Shlema. Ça veut dire Yisrael, Afal Pichichata Yisrael, où on ne peut plus sortir du peuple juif. Terminé. Le juif, quoi qu'il soit, un renégat, c'est toujours un juif. Ça qu'on dit que le grand de Vilna, un jour, il a vu quelqu'un, le jour du Shabbat, qui était en train de transgresser le jour du Shabbat, il lui a dit pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Il a dit Rabbi, vous voulez rire? Je n'observe pas le Shabbat, vous me parlez de la Torah. Il dit, ce n'est pas parce que tu n'observes pas le Shabbat que tu n'es pas tour ou tu n'es pas obligé d'étudier la Torah comme tous les autres juifs. Un juif, c'est un juif. On ne peut plus s'en sortir. Bal yidach mimenu nidach. Un juif ne quittera jamais le judaïsme. On peut se convertir à tout ce qu'on veut, on est toujours juif. Même l'ustiger. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est un juif de provocation. Donc, mais attention. À partir du moment où on a ces catégories-là, on croit que les catégories sont terminées. Mais il y en a un qui fait encore partie des catégories. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Ramban Armanik dit que le Sefer Bereshit, c'est le Sefer de la Havaout, c'est le Sefer des Havot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça se termine en disant que Yaakov est mort. Le Sefer Shemot, ça commence le peuple juif avec les Shvatim, les tribus. Il y a les tribus. Et on va voir bizarrement qu'il y a un seul homme qui a son nom dans les deux, et deux fois on dit qu'il est mort, alors que les autres on ne les cite pas. À la fin du Sefer Breshit, il y a marqué Vayamot Yosef. Yosef est mort. Au commencement du Sefer Shemot, il y a marqué de nouveau Vayamot Yosef. Yosef est mort. Yosef, c'est la charnière entre les Avot, les références du peuple juif, les lois qui gèrent le peuple juif, et le peuple juif lui-même, une fois qu'il était formé. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Yosef? Vayanos Achutza. La seule façon de sortir du peuple juif, c'est d'épouser une non-juive parce que les enfants seront non-juifs. Yosef, il a fui. Vayanos Achutza. Yosef, c'est celui qui ferme la porte à ce qui restait ouvert de la perte du peuple juif après Yaakov. Chaque juif qui naît d'une mère juive est juif. Mais chaque juif qui naît d'une mère non-juive n'est pas juif. Yosef, cette tentation de la femme de Potiphar, il a fermé la porte. Vaïa dans sa koutsa. Maintenant, vous allez comprendre un verset dans Ovadia. Et le prophète Obadia, il dit ceci. Vehaya bet Yaakov le Hesh. La maison de Yaakov, ce sera un feu. Ou bet Yosef, la maison de Yosef, Lehava, une flamme. Ve Esav Kash, la maison d'Esav, ce sera la paille. Ve Liat, et tout ça, ça va s'enflammer. Ça, c'est le problème de Yaakov et de Esav. Esh, le feu, c'est Yaakov. Lehava, la flamme, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que la limite de Yaakov, le feu, c'est quand même pas une flamme. La flamme, elle se propage. La flamme, c'est ce qui propage le feu. Yaakov, sans Yosef, il est perdu. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a personne qui va quitter le peuple juif. Mais tout le monde va quitter le peuple juif. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Yosef, c'est celui qui a fermé la porte. Vayanos Achusa, il a fui. Il n'a pas voulu se mesurer à ce problème. Avoir des enfants non juifs, ça ne fait pas partie des catégories du peuple juif. Ça, c'est la flamme qui a été allumée du feu de Yaakov. Yaakov, c'est même comment ça reste là où c'est. Comment tu veux que ça se perpétue? Tu dis c'est des Avot, c'est eux les pères, c'est eux les principes. Mais il faut que ça continue. Comment ça continue? Par Yosef. Parce que sans Yosef qui refuse le mariage mixte, il n'y a rien qui continue. Et pourquoi tu as mis toutes les catégories? On peut devenir juif, on est juif, on reste juif. Mais il est possible qu'il ne reste plus un seul juif. La promesse faite à Abraham, Isaac et Yaakov, elle ne passe que par la volonté de Yosef. Si Yosef n'est pas d'accord avec, le bon Dieu peut promettre tout ce qu'il va avoir à Isaac et Yaakov, il n'y aura plus rien. On peut se débrouiller pour que dans une génération, il ne reste plus un seul juif.
Il y avait déjà des mariages mixtes à l'époque de Yosef.
Absolument.
Il n'y avait pas encore.
Bien sûr.
Moshe, il ne s'est pas marié avec
lui. Non. Mariage mixte, ce n'est pas dans le sens. C'est pas dans le sens de quelqu'un qui veut devenir juif comme la femme de Moshe. C'est dans le sens de quelqu'un qui veut attirer l'autre vers l'autre côté. Si quelqu'un se convertit, c'est autre chose. La femme de Moshe, elle s'est convertie. La femme de Potiphar, hein, c'est pas qu'elle voulait se convertir, elle voulait devenir comme Yosef. Sinon, il n'y a pas besoin de faire ça en cachette quand le mari n'est pas là. D'accord? Donc maintenant, Yosef, c'est le fait que ça puisse continuer. Sans Yosef, ça ne continuera pas. La seule manière que ça continue, Vayanos Yosef Arkutsa. Il y a des choses qui ne doivent pas faire partie de tes catégories. Maintenant, on est confronté à ce problème-là. Rachidi Gadalti Bemitzraï. Si vous voyez que je ne suis pas entièrement propre, c'est parce que j'ai grandi en Égypte. Et on ne peut pas éviter le problème. Il y aura toujours de la poussière qui va rester. Le rêve va venir avec d'autres catégories qu'on ne connaît pas. Tu vas être obligé de te mesurer à des choses dont tu n'as pas envie de te mesurer. La seule façon d'être protégé de ça, c'est l'épreuve, Metzarim. Ça, c'est aussi quelque chose qui t'enferme, c'est pas grave. On est enfermé par beaucoup de choses dans la vie. On doit pouvoir s'en sortir. juifs, on a toujours reproché qu'il ne s'est pas laissé enfermer dans le ghetto. C'est lui qui s'est enfermé dans le ghetto. Ce reproche-là, en vérité, ça n'est qu'un reproche que si on considère la vie comme pharaon. C'est que les limites, elles sont faites pour être éclatées. J'ai envie de me détruire, je me détruirai. J'ai envie de faire ceci, je fais cela. C'est ça paroua. Tu as tout cassé, tout ce qu'on a mis dans tes mains, tu l'as cassé. Le juif est obligé de vaillir, c'est obligé de se retirer. Parce qu'il a des catégories à lui. Et même si on le met parmi les autres, et il vit toute la journée parmi les autres, au fond, il est dans son ghetto. Parce que les structures ne doivent pas être les mêmes. Ça veut dire que l'enfermement, c'est une liberté. Et non pas le contraire. Normalement, si vous enfermez un peuple dans un ghetto, c'est l'autodestruction. Vous faites tout pour le blocus. C'est l'autodestruction. Afar libam lisno et amo. La plus grande tova que Dieu nous a fait, c'est qu'on a toujours été entouré de gens qui nous haïssent. Donc on est constamment dans l'épreuve. C'est ça qui conserve le peuple juif. Attention, il ne faut pas confondre avec Sartre. Lui, il a dit que c'est ça qui crée le peuple juif. Nous, on dit seulement que c'est ça qui conserve le peuple juif. L'épreuve, elle conserve le peuple juif. On n'a pas d'autre solution. Yosef a dû passer par cette épreuve-là. C'est ça la conservation du peuple juif. C'est comme ça que Yaakov peut se perpétuer. Tu peux lui dire, tu sais, mais Yaakov, ta descendance, elle sera toujours Israël. Il y a un moyen de s'en sortir. Parce que Yitzhak, il est né d'une mère juive. Si Israël ne se perpétue plus, il se perpétue plus. La façon que Israël se perpétue, que le feu devienne une flamme, c'est seulement par l'intermédiaire de Yosef. La Gemara dans le traité de Yom, elle dit, un jour, lorsque chacun sera jugé, le riche viendra et dira, j'avais trop de choses à faire pendant. Qu'est-ce que tu me parles de mitzot, de machin, de trucs? J'étais trop sollicité. On lui répondra, Ashir Aïta Mirabelezer Ben Kharsoum. Est-ce que tu étais plus riche que Rabelezer Ben Kharsoum, qui possédait 1000 villages en Eretz Israël et 1000 bateaux sur la mer? Et il partait de sa maison de Erev Yom Kippour jusqu'au Erev Yom Kippour avec un petit peu de farine et un petit peu d'huile pour se cuire ses galettes. Voilà ce qu'il mangeait pendant toute l'année. Bon. Celui qui est pauvre, il dit, tu sais, moi, j'étais obligé de courir après ma propre subsistance toute la vie. Donc, on peut rien me demander. Il dit, Kloum, Ani Aïta, Yoter Mihilel. Est-ce que étais-tu pauvre plus que Hillel? Que Hillel, il n'avait pas l'argent pour donner la pièce, pour donner au shamash du Beit HaMidrash. En vérité, si vous voulez savoir la valeur de la pièce, c'est très simple. C'est que le shamash du Beit HaMidrash, il recevait 200 pièces ou 300 pièces tous les jours, il était toujours shamash du Beit HaMidrash. Donc la valeur de la pièce, elle ne devait pas être énorme. Parce que sinon, il aurait trouvé une autre solution que d'être shamash du Beit HaMidrash. Et une pièce, il n'avait pas Hillel. Alors qu'est-ce qu'il se mettait? Il se mettait en haut pour écouter. Parce qu'on trouve toujours un trou dans la palissade. Et on s'est aperçu un jour qu'il était là parce que la neige est tombée. Et lui ne s'en est pas aperçu tellement. Et il était évanoui de froid. Ben, ça coûte de l'argent. C'est pas qu'il n'a pas les moyens, c'est que ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas. Ça coûte. C'est pas qu'on le laisse pas, c'est que ça coûte. Ah bon? Non, c'est bon. Sûrement. En tout cas, il ne devait pas en avoir très beaucoup de mauvaise volonté, il est, puisque on nous dit Cloum, Ani Ayata est permis. Ah, les autres. Bon, on va pas faire le prophète des autres maintenant. Il y a une autre chose. Hein? C'est justement, c'est ça. Il y a même qui m'a rien. Ce qui se passait avec Hillel. ça veut dire que la difficulté elle est tellement grande que toi aussi tu pouvais. Une Kemarim Torah, c'est une metziut, une réalité. La preuve, il est. On ne peut pas toujours se faire payer sa vie par les autres. Donc, attention. Le troisième personnage qui vient. Lui, il était ni trop riche ni trop pauvre, il a tout ce qu'il fallait dans la vie. Il dit, Taroud Haïti Beitri. Il dit, moi, j'ai eu tellement de sollicitations dans la vie. La vie, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement agréable, c'est tellement beau, qu'on ne peut pas me demander. On lui répond, Kloum Nae Haïta Yoter Mi Yosef. Étais-tu plus beau que Yosef, que Yosef a eu toutes les sollicitations du monde, et il est resté Yosef. C'est quoi cette question? Que quoi? Tarou d'Haïti Beitri. Quelqu'un qui est pauvre, je comprends. Il dit à Dieu, moi j'étais pauvre. Ce que le monsieur a suggéré qu'on tende la main et que les autres vous payent votre vie, il n'avait pas envie. Là. Il ne laisse pas quelqu'un qui voulait que les autres lui payent son rétamirage. Donc il n'avait pas. Rabbezer ben Kharsoum, il faut entretenir la fortune pour ne pas la perdre. Donc je comprends qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais quelqu'un il dit, Taroud Haïti Beitri, il y a du Yetzara, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, autre chose que ce que tu me demandes. Ça, c'est pas une réponse. Il faut croire que c'en est une. Il faut croire que c'est une réponse. Si la Gemara dit, voilà la réponse, ça veut dire que c'en est une. Ça veut dire que quelqu'un, il peut venir, et il peut me dire, il y a eu tellement de sollicitations, il y a eu tellement de possibilités, que je ne peux pas trouver en moi le ressort pour avoir mes propres catégories. Antilon a créé un personnage qui s'appelait Yosef. Plus de sollicitations que lui, c'est pas possible. Il était Meller, le roi d'Égypte. Il avait tout pour plaire. Il est resté le même Yosef. Alors si lui l'a pu, toi aussi tu peux. Mais ça veut quand même dire que la réponse... elle existe. Taroud Haïti Beitri. Le Yetzer Hara, ce qu'il y a de mauvais à faire dans la vie, c'est une grande occupation. On peut y passer sa vie. Il y a une réponse. Il ne fallait pas créer ces possibilités-là. Tu as raison. Mais maintenant, sur ta réponse, on va te prouver qu'elle est fausse. Yosef. Si on n'a trouvé personne autre que Yosef, tu n'as pas trouvé d'autres sadikim. Tu n'as pas trouvé d'autres personnes. Tu n'as pas trouvé dans tout le peuple juif Yosef. Plus pauvre que Hillel, tu n'as pas trouvé. Plus riche que Rabbi Eliezer ben Kharsom, tu n'as pas trouvé. Mais dans la catégorie des tzadikim, pourquoi est-ce qu'on a choisi Yosef? D'après ce que l'on a dit, on peut comprendre. C'est que quelqu'un, s'il ne sait pas se construire ses propres catégories, il a raison de poser la question. Il dit, on me met dans la vie. Il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de possibilités. Pourquoi est-ce que moi, je vais passer ma vie à devenir quelque chose ou quelqu'un? Pourquoi? Je vois tellement de possibilités différentes. Là-dessus, on a répondu. Le nombre des sollicitations, la grandeur des sollicitations, ça n'a rien à voir avec le problème. La preuve, tu n'auras jamais autant de sollicitations que Yosef, et il s'en est sorti lui aussi. En vérité, de là, on peut comprendre une chose. C'est que chacun a son épreuve et chacun doit se mesurer à son problème. Rabbi Eliezer ben Kharsoum, il avait son épreuve. Hillel avait son épreuve. Yosef aussi, il avait son épreuve. Toute cette gemara ne vient de que dire qu'une chose. Qu'est-ce que tu vas dire? C'était dur parce qu'il y avait une épreuve. Mais c'est ça qui concerne, c'est ça qui fait tout. Mais ça reste extérieur. Ça a une possibilité de rester extérieur. Ça veut dire que je dois me constituer un équilibre qui fait que bien que c'est obligatoire de rentrer dans mes catégories, parce que je ne peux pas m'empêcher de voir, je ne peux pas m'empêcher d'entendre, je ne peux pas m'empêcher de toucher, je ne peux pas m'empêcher de sentir. Tout ça, je ne peux pas m'en empêcher. C'est ça l'épreuve, c'est que ça rentre malgré moi. Mais j'ai un moyen de mesurer. C'est que je me construise à moi mes catégories, Vayanos. Toi, tu peux le faire. Juste si on comprend ça. Celui qui, comme le nazir, il s'approche de la vigne, il n'a rien compris, celui-ci, c'est sûr. Maintenant, vous allez comprendre un tel zagma qui est très difficile à comprendre. L'agma, au commencement du traité de Brachot, dit V'chola over al dibre chachamim chayamita. Tout celui qui transgresse les paroles des chachamim est coupable de mort. Chéné m'a recommandé dit Poretz geder, celui qui casse la barrière, Yishren ou Nachash, le serpent le mordra. D'abord, on a vu que dans la Torah, il y a même des mitzvot qui ne sont pas du fait des chachamim, c'est la Torah qui les a imposés. On ne parle pas de mort partout. Pourquoi tout d'un coup, chayamita? Quand on verra du chacham, chayamita? Parce qu'ici, on parle de quel livre chachamim? De ce qu'on a mis pour barrière, pour ne pas arriver à se mesurer à l'interdiction de la Torah. Celui qui n'a pas compris qu'il faut mettre des barrières, il n'a pas compris la vie, chayamita. Chayamita, ce n'est pas une punition, tac, on va t'exécuter. Les chachamim n'ont pas la possibilité d'exécuter qui que ce soit. Chayamita, ça veut dire que si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris, tu n'as rien à faire ici. Geder, la barrière, c'est ce qu'on dit au nazir, sror, sror, amrina, le nazira, le karma, l'otikav, ne te mesure pas au nisayo lui-même. Là, tu tombes. C'est ce que tous les matins ont dit, ve alte vienu, l'olide, nisayon. Ne m'amène pas au nisayon. Mais la vie, c'est obligatoire. Alte vienu, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas du tout l'épreuve. Ça veut dire qu'on ne soit pas amené à se mesurer à l'épreuve elle-même, qu'on puisse construire nos catégories pour que, au moment où l'épreuve vienne, moi je sois assez équilibré pour la voir venir. Donc à l'extérieur à moi, chaque chose que je vois venir, ça ne fait pas partie de moi. Le rat, tout ce qui est mauvais, je dois le voir venir. Ça ne fait pas partie de moi, c'est extérieur. C'est ce qu'on dit le matin. Alte vienu, le nisayon. Le nazir ne le place pas à côté de la vigne, au moins ça. Mets-le un petit peu loin, comme ça on va réussir. Mais si tu le mets à côté de la vigne, il est fichu. Parce que c'est rentré déjà dans ses propres catégories. Un homme doit avoir cet équilibre-là pour qu'il puisse voir le problème. Tu as vu le problème ? Il est déjà extérieur. Maintenant on comprend ce qu'on a dit au début. Al tirou nishanish rachoret. Le fait, il dit, tu sais, je me suis sali, c'est vrai. Aval Shosafani Hashemes, c'est l'extérieur. Comment c'est l'extérieur? C'est toujours l'extérieur. Il n'existe pas quelqu'un qui, de son propre fond, et en lui-même le Nisayon, ça n'existe pas. Il doit toujours, et il peut toujours revenir. Tout le problème, c'est d'être assez clairvoyant, et d'être assez sûr, et d'en connaître assez, pour pouvoir voir venir. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne voient pas venir. Donc ils réfléchissent déjà avec des catégories qui sont extérieures. Je dois pouvoir être imperméable, ça veut dire que je dois pouvoir être propriétaire de mes propres raisonnements et de mes propres réactions. La Torah me permet ça parce que je me heurte à des catégories qui existent. Et en réaction, j'ai des moyens qui existent. Je ne suis pas obligé, moi, d'inventer les mitzvot. Je ne suis pas obligé d'inventer la kashrout. Je ne suis pas obligé d'inventer la tfila. Je ne suis pas obligé d'inventer le livre de la Torah. Je ne suis pas obligé d'inventer tout ça. Ça existe. Si j'étais obligé de créer toutes ces catégories-là, je ne m'en sortirais jamais. Mais en vérité, elles existent, ces catégories, puisqu'elles existent. Alors les autres, elles sont extérieures aussi. Si elles n'existaient pas, on pourrait dire, mais alors, il n'y a plus de différence. Comment je vois venir? Comment je vois le problème? Comment me dis-tu du fait que je peux voir l'épreuve? C'est qu'à l'extérieur. Mais je ne la vois pas venir. Bien sûr tu la vois, puisque les catégories, elles t'ont été définies par la Torah. La Torah, elle t'a défini elle-même les catégories. Puisqu'elle t'a défini elle-même les catégories, alors à ce moment-là, tu peux être maître de ça. Il y a un moment où on croit qu'on n'arrive même pas à s'en sortir. Au moment où j'ai pris les catégories de l'autre, Samuni Motera et Akramim, on m'a mis, moi, je suis devenu celui qui est à la tête des idolâtres, des communistes, Vous aurez toujours un juif à la tête de tout ça. Mais malgré tout, c'est extérieur. Malgré ça, c'est encore extérieur. Car Michel Nathard dit, c'est vrai, moi j'avais mon patrimoine à moi, je pouvais rester dans cette catégorie, j'ai basculé dans l'autre. Extérieur, ça reste extérieur. On a toujours la possibilité de pouvoir se recréer les catégories parce qu'elles existent, elles sont là. Avant le don de la Torah, c'est autre chose. Après le don de la Torah, ça n'a plus rien à voir. Donc maintenant on comprend le verset. Le peuple juif dit, voilà, à partir du moment où je m'appelle le peuple juif, où j'ai reçu la Torah, où je suis, qui je suis, c'est vrai que j'ai pas toujours réussi à me mesurer aux épreuves. Mais c'est toujours la faute de l'extérieur. Parce que je suis conscient que la vie, elle est faite de ça. Donc même lorsque j'ai trébuché, je peux toujours m'en sortir. Celui qui a intégré l'épreuve en lui-même, il est fichu. Celui-ci, on ne peut plus rien pour lui. Il faut l'aider à prendre du recul. Au moment où l'aidera à prendre du recul, il commencera à voir le problème et il va se sortir du problème. Ça, c'est la seule démarche qu'on peut avoir. En sachant que ça doit toujours rester extérieur. Si ça devient intérieur, c'est fichu. Celui qui ne sait pas, c'est difficile pour lui. Et pourtant, la guerre, ça existe. Ici, on parle, c'est le rêve rave. Sans ça, ils sont venus. Si je vois même que quelqu'un qui peut venir de l'extérieur entièrement, il y a des limites, je vous dis tout de suite. On n'a jamais vu un papou qui mange ses grands-parents au petit-déjeuner devenir juif. Parce qu'il y a des limites aux possibilités. Mais même quelqu'un qui est extérieur, ses catégories, elles le touchent un jour. Sinon, il ne pourrait pas. Comment il va devenir juif? C'est-à-dire que cette démarche, elle existe pour tout le monde. Toi aussi, tu es en guerre. Toi aussi, tu es à l'extérieur. Tu vas découvrir des catégories. Toi aussi, tu peux les faire tiennes. Toi, tu dois aimer le guerre parce qu'il a fait cet effort-là. Mais qui te dit que faire cet effort, c'est ça la vie, c'est ça qui est important? Qui guerre haïtahem be'eretz Mitzrayim. Vous, vous êtes constitué peuple juif grâce à ça. Grâce au fait d'avoir pu surmonter. Et pourtant, ils étaient... Le Midrash nous dit, ils sont arrivés même tête charrée Touma à la 49e porte de la Touma, ça veut dire ils étaient presque enfoncés. Si on ne les avait pas sortis ce jour-là, ils seraient tous restés en Égypte. Même jusqu'au bout, tu peux remonter. La preuve, tu l'as fait en Égypte. Ça, c'est quelque chose qui est respectable. Vav talorer hakamocha, aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire qu'on est tous égaux. Et qu'on est tous une partie de quelque chose. Vous savez que le mot réa veut dire une part, une partie coupée. Ve'avta le réa, je n'ai de raison d'éprouver de l'amour pour l'autre que si je suis issu de la même chose. On est tous une part. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se reconnaître dans l'autre. Le réa kamocha. Tu vois ce que tu éprouves, l'autre aussi l'éprouve. Comment tu peux savoir ce que l'autre éprouve? Selon ce que toi tu éprouves. Va'avta le réa kamocha. Mais on va pouvoir se reconnaître aussi dans le guerre. Va'avta et ta guerre. C'est que le guerre, c'est celui qui fait un effort. Il ne refuse, il n'a pas refusé l'épreuve. Au contraire, il a surmonté l'épreuve. Il est venu de l'extérieur. À partir de ce moment-là, toi aussi, tu viendras de l'extérieur. Et tu es perpétuellement ce guerre-là. Sortir de ses propres frontières. C'est ça la liberté, c'est ça la guéroute. On est devenu juif en sortant d'Égypte. Le peuple juif a procédé à une guéroute. Il est devenu juif. Mais on ne peut le faire que Bemetzar. Jamais vous verrez qu'un non-juif deviendra juif si lui-même il ne sent pas une épreuve, il ne sent pas une obligation de le devenir. Sans presser, sans pression, sans quelque chose qui pousse, on est incapable. D'accepter ce fait-là, c'est d'accepter ce processus de la sortie d'Égypte. Maintenant, on peut comprendre un texte de la Haggadah. C'est vrai que dans la Haggadah, on dit « Il ou l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu et Avotenu. Si Dieu n'avait pas fait sortir nos pères d'Égypte, Areb Anu Banenu 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 Ayum Shubadi Banenu Le Pharaon Ben Mitzrayim. » On serait resté esclave à Pharaon en Mitzrayim. La question que tout le monde demande, on a déjà vu d'autres qui se sont libérés. Déjà chez les chrétiens, il y avait des révoltes d'esclaves. Aujourd'hui, on sait que chez nous, ça existe la révolution. C'est même catégorie dans les lois hegeliennes de l'histoire. Ça existera toujours, la révolution. Seulement quoi? Pourquoi il y a marqué ici, si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte? C'est que le fait de créer un peuple à partir de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils sont devenus les 4/5e? Ils sont toujours restés, Aïnou Meshubadim, Aïnou le Pharaon Ben Israël, ils sont restés égyptiens. Donc c'est ce qu'on dit. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas donné cette possibilité de sortir, nous on serait restés dans les mêmes catégories que ceux qui sont restés. Donc aujourd'hui encore, on sera des Égyptiens. Donc le paradoxe, il est qu'il est possible qu'aujourd'hui, s'il reste encore des Égyptiens de ce temps-là, ça doit être des Juifs. Il ou l'autre, si Akadosh Baruch Hu est à côté de Mitzrayim. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir, eh bien on serait comme les autres Juifs qui sont restés. Parce qu'eux, ils ont refusé ce problème-là. Et c'est vrai que l'épreuve, ce n'est pas quelque chose de marrant. Parce que le seul dont on croit qu'il nous veut du mal, c'est toujours le bon Dieu. Quelqu'un, quoi qu'il lui arrive, il ne se plaindra pas aux autres, il se plaindra du bon Dieu. Mais le seul qui te doit rien, c'est sûr que c'est le bon Dieu. Le seul qui veut pas, qui va pas à ton encontre, c'est sûr que c'est le bon Dieu. Ah, le fait qu'il ait créé le système de l'épreuve, ça c'est au contraire. C'est comme ça qu'on se développe et c'est comme ça qu'on peut arriver à la goule. C'est qui la question? Allez-y. Les Juifs en Égypte, ils étaient idolâtres.
Pendant l'esclavage?
Ouais. Ils sont devenus comme les Égyptiens. De ce côté-là, ils sont devenus comme les Égyptiens, ils étaient idolâtres. Ça veut dire que ça a déteint sur eux. Nous, on n'est pas des Français.
Il y a un verset qui en fait qui correspond à ce que vous disiez, c'est que Dieu, j'épuiserai mes flèches contre toi. Donc s'il n'est pas épuisé ses flèches contre toi, ça veut dire qu'on fait des flèches, ça veut dire que même si quand tu les auras épuisé, il restera des flèches.
Il y a des questions?
Sentir la difficulté arriver, comme vous disiez ça tout à l'heure, c'est pas évident.
C'est l'étude qui permet de sentir la difficulté arriver, parce que si je n'ai pas des catégories qui sont propres et qui me permettent de discerner, je ne sens pas la difficulté arriver. Ça, ce qu'on appelle la avoda, le service. Un homme n'est pas au service d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de mon service. Mais il est toujours attentif, c'est ça ce qu'on appelle la avoda. C'est de toujours être attentif aux choses.
Une chose qui est difficile d'être attentif, c'est la lassitude, mais la... Je sais pas, parfois, on peut faire une tefila un peu, qu'on est complètement ailleurs, on ne sent plus la nécessité, on ne comprend pas, on... Je sais pas pour moi. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais dans une situation où... Ça, ni de comprendre, ni d'avoir d'un coup un éclair de pensée qui fait que d'un coup ça me paraît évident. Et là, c'est la très grande difficulté à ce moment-là. Alors, est-ce que ça aussi, ce que vous dites, ça s'applique à cette situation précise?
Ouais.
Aussi sentir arriver quelque chose à
ouais,
ce niveau-là.
Parce que ça dépend souvent dans quel cas on vit. C'est que plus on est habitué à réfléchir de cette façon-là, et plus on voit les choses venir.